Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour ce nouveau voyage de Gulliver, nous recevons Marion Poisson de Chaune. Au sujet d'un livre qui s'appelle « Ma fille ne t'en va pas ». Alors, tous les jours, voire plusieurs fois par jour, on nous parle de la Syrie, on nous parle de Daesh, on nous parle du djihad, on nous parle de tous ces radicalisés qui partent sans crier gare pour aller se faire le plus souvent décimer en Syrie. Et au fond, on n'a jamais l'autre face de cette réalité, c'est-à-dire la famille, les parents, les gens qui vont vivre cette situation à travers les sentiments qu'ils vont devoir éprouver durant cette disparition. Alors, disparition momentanée, disparition définitive, les choses peuvent être terriblement tragiques. Alors, Marion Poisson de Chaune, vous avez écrit ce livre, vous, de ce côté-là, justement, du côté d'une mère qui voit partir sa fille et qui au fond, à cette occasion-là, se remémore sa propre existence au regard de cette absence qui va intervenir comme une question permanente qui se pose et se repose et qui donc va permettre d'égrener le fil de la mémoire de cette mère.
Oui, en fait, j'ai imaginé que la mère, était impuissante, et quand on est parent, on peut être très impuissant face aux décisions ou aux choix de nos enfants, qui sont autonomes par rapport à nous, et on peut difficilement réagir. Et ce personnage de mère, justement, a une espèce de pensée magique, et imagine que si elle dit ce qu'elle a vécu à sa fille, même si sa fille n'est pas présente, s'il se passe quelque chose, s'il y a un effet de communication un petit peu télépathique, sa fille reviendra. Et elle raconte sa vie. C'est une vie qui a été effectivement très difficile, qui, moi, m'a été inspirée par un certain nombre de témoignages de femmes et que j'ai voulu raconter aussi dans un roman.
Alors, ce sont 27 séquences, plus que des chapitres d'ailleurs, qui alternent, c'est-à-dire tantôt on a... Alors, le livre est raconté à la deuxième personne. Cette mère s'adresse à cette fille qui a disparu, qui est partie, de manière très lapidaire, en disant qu'elle part, voilà, sans donner aucune explication. Et donc, on va avoir cette alternance entre la mère qui interpelle sa fille et qui essaie de parler cette réalité terrible à laquelle elle est confrontée, et donc une sorte de flashback. Vous êtes enseignante de cinéma et ça n'étonnera donc personne. Une sorte de flashback, on va suivre l'enfance, puis la jeunesse et puis la femme adulte de la vie de la mère.
Oui. D'abord, j'ai voulu cette alternance pour ménager justement une espèce de suspense, parce que c'était l'attente quand même qui était le sentiment dominant. Et l'attente est mêlée évidemment d'une très forte angoisse. Et j'ai alterné en fait la première et la deuxième personne, parce qu'il y a aussi la première personne. C'est la première fois que j'écris d'ailleurs un roman à la première personne. Le jeu de la mère et le tu qui est adressé à sa fille. Et en même temps, il y a cet effet de flashback parce que, en fond de récit, on a toute cette histoire dramatique de la mère qui est une femme marocaine qui a vécu des choses difficiles dans son enfance. Elle a été vendue à 5 ans et je commence le récit comme ça. Et ensuite, elle a été placée comme domestique, elle a eu une vie conjugale, etc. Et le personnage de la fille, justement, c'est un personnage qui a vécu d'autres choses et qui ne peut pas ou qui n'a pas deviné ce que pouvait être le contexte de la mère, le vécu de la mère. Et c'est ce qu'elle essaie aussi de lui transmettre et qu'elle regrette de n'avoir pas dit à un moment parce qu'elle avait honte.
Alors, ce qui est frappant quand même, c'est l'écart qu'il y a entre ces deux personnages. Cette mère qui a une vie alors terrible. Au fil du livre, on va de choses épouvantables en choses épouvantables. On se dit, c'est invivable. Comment elle a pu résister à ça? Et une fille qui, donc, ordinateur, enfin, très branchée sur, avec les réseaux sociaux, qui a donc, on pense, elle fait des études, on a quelques indications, etc. Et donc, il y a un monde entre la mère et la fille. On a l'impression qu'il y a une quasi-incommunicabilité entre les deux.
Oui, tout à fait. C'est d'abord très difficile de partager un vécu. Et ensuite, le monde de la fille, c'est aussi un monde qui a quand même mal débuté. J'en parle dans le roman. Bon, je ne veux pas tout dévoiler. Mais ensuite, c'est vrai qu'elle peut paraître privilégiée. Mais je pense que ce qu'ont vécu les parents aussi induit une fragilité chez les enfants. C'est-à-dire que, bon, moi, on m'avait raconté, par exemple, une amie juive m'avait dit que les petits, c'était les petits-enfants de la Shoah, en fait, dont les grands-parents avaient vécu la Shoah, qui étaient chez les psychanalystes, en fait, qui faisaient des psychanalyses. Et je pense que même si les parents ne disent pas, ne racontent pas, bon, on est un peu dans le domaine, pas du secret de famille tout à fait, mais du non-dit, il y a quelque chose qui est transmis à l'enfant, et une souffrance, évidemment, un mal-être. Et en plus, l'enfant, c'est donc, bon, on pourrait dire, une beurette. Et elle vit autre chose, mais en même temps, elle a une certaine souffrance aussi de par son statut, je pense. Alors, et elle est fragile.
Il faut dire qu'elle a démarré dans des conditions, elle aussi, terribles, cette enfant, puisque elle est née deux fois, en quelque sorte. D'ailleurs, c'est ce que dit sa mère. Elle est née de sa mère et puis le père, donc un triste personnage, essaie de l'éliminer. Et donc, c'est sa mère qui, la retrouvant, lui redonne sa vie.
Exactement. Et ça, c'est une histoire vraie. C'était un témoignage de femme qui m'avait raconté que bon, son mari essayait de la faire avorter et puis ça n'avait pas fonctionné. Et un jour, elle rentre, elle était sortie faire les courses, elle ne trouve plus son bébé. Elle demande au mari qui lui dit, bah, écoute, elle n'est plus là. Et elle se met à chercher et finalement, elle descend jusqu'au local à ordures. Elle entend un faible gémissement et le bébé avait été jeté à la poubelle. Et elle avait eu beaucoup de chance parce que les éboueurs n'étaient pas encore passés, ce n'était pas l'heure. Et c'est vrai que cette histoire peut aussi induire,
bien sûr,
même dans l'inconscient de l'enfant.
Alors il y a un trait par rapport à ce récit qui est... ça me fait sourire en même temps, c'est épouvantable quoi, c'est que vous dites, vous racontez sa recherche, et dans sa recherche elle se dit, il est tellement feignant cet homme qu'il n'a pas dû aller très loin pour s'en débarrasser. C'est grotesque quoi, et en même temps tragique ce détail.
Oui, mais la vie est faite de ça. Moi j'aime beaucoup le cinéma italien par exemple, oui. Le cinéma italien, il y a toujours de l'humour dans la tragédie et c'est toujours tragicomique. Et en fait, c'est vrai que c'est toujours un petit peu ça. C'est-à-dire que même dans une vie très difficile, très dure, il y a des traits d'humour. Et c'est vrai que j'ai rencontré des femmes qui pouvaient, dans le malheur, être très drôles aussi et raconter des choses, même si c'était dans un français approximatif, assez pauvre, dire des choses justement très drôles et très, très pertinentes.
Alors, pour faire ce livre, est-ce que vous l'avez tiré simplement de votre imagination ou est-ce qu'il y a derrière quelques enquêtes, quelques questionnaires ?
Alors, je n'ai pas enquêté, mais au cours de ma vie, j'ai quand même rencontré pas mal de femmes, et notamment dans des associations qui avaient vécu des choses difficiles. Et c'est vrai que ces figures de femmes m'ont aidé à construire le personnage de la mère. Bon, il y a aussi de mon vécu, puisque moi-même je suis mère, j'ai eu des soucis à un moment donné avec mon fils quand il était adolescent. Et avec le recul, je me suis dit, mais il pourrait très bien partir au djihad maintenant. Parce que à l'époque, bon, il avait sa crise banlieue, il adorait le film La Haine, il ne comprenait pas pourquoi on n'habitait pas dans la banlieue parisienne. Et j'avais essayé de lui expliquer. Donc, il s'habillait en rappeur. Enfin bon, il s'était construit un personnage à tel point que quand il était en fac de droit, les profs le regardaient quand même assez bizarrement. Ils avaient imaginé des trucs alors que c'était juste un personnage et une image. Et les jeunes sont capables de choix très radicaux parce qu'ils sont beaucoup plus fragiles, en fait. Et il y a eu cette part, effectivement, de mon vécu que j'ai transposé parce que je me suis fait beaucoup de soucis à une époque et ça a été très dur. Puis je vois d'autres amis qui connaissent les mêmes choses avec des enfants un peu plus jeunes. Et puis toute une part, bien sûr, d'imagination, et notamment pour construire le personnage de la fille, bien sûr, et des autres enfants, et de leur vécu.
Alors, c'est bon, le prétexte du livre, c'est évidemment ces départs de personnes radicalisées, mais au fond, ce n'est pas votre sujet principal. On n'y apprend d'ailleurs rien des mécanismes profonds qui agitent ces jeunes gens. Et par contre, il y a ce questionnement de la mère qui se dit, si j'avais su, évidemment, j'aurais dû voir des signes. Et ce terme de signe revient dans le roman. Certains détails auraient pu lui laisser penser que... Mais bon, c'est un peu vain quand même comme...
Oui, mais c'est ce que se dit tout parent quand il n'a pas identifié effectivement un problème ou qu'il n'a pas compris. Et il est vrai que, en fait, le djihad, c'était pas mon propos. Enfin, pas tout à fait. Ça aurait pu être autre chose. À toute époque, il y a des choses. Moi, quand j'étais jeune, par exemple, c'était la drogue ou les sectes. Donc, c'est deux éléments qui faisaient très peur aux parents. Et en fait, si vous voulez, j'avais ces histoires de femmes qui... étaient dans un tiroir, je les avais pas rédigées, mais j'avais pris des notes, donc de façon très hâtive. Et j'avais plusieurs textes comme ça. Je n'en faisais rien, mais je m'étais dit, il faut que tu écrives un livre. Je les avais notés dans cette perspective. Et un jour, j'ai entendu une émission de télévision qui présentait des parents, justement, dont les enfants étaient partis au djihad. Et qui disaient leur désespoir, leur désarroi. Et je me suis dit, mais c'est ça le déclencheur. Ça donnera du sens... Et là, j'ai écrit le livre, je l'ai écrit très vite. Je pense que je l'avais porté pendant plus de 10 ans. Et du coup, tout à coup, le puzzle s'assemblait et j'ai pu le construire et c'est venu très facilement.
Alors, je dis, c'est pas, on ne va pas comprendre les ressorts du djihad dans ce livre, même si donc, on voit un certain nombre de mécanismes à l'œuvre. Mais ce que c'est surtout, c'est un formidable portrait de femme, quand même. Et cette femme, elle s'appelle Yasmina. Elle a une vie absolument terrifiante, d'un certain côté, et en même temps, une humanité extraordinaire.
Oui, et c'est vrai que beaucoup de femmes que j'ai croisées auraient pu être Yasmina, en fait. Hein, c'est à travers des figures de femmes qui vivaient des choses terribles et qui avaient beaucoup de courage, beaucoup de résilience, beaucoup d'humanité, qui s'entraidaient aussi, que j'ai pu construire ce personnage féminin.
Alors, qui a une vie terrifiante, parce qu'elle est vendue donc, très jeune, ensuite elle est battue, elle est martyrisée d'une certaine façon. Elle trouve un époux, mais dans le cadre d'un mariage arrangé. Elle a des grossesses qui sont pas désirées par le conjoint. Elle arrive à un constat de dire que l'amour, c'est pas vraiment son. Elle est heureuse de vivre seule. Hein, elle dit à un moment donné.
Oui, parce qu'elle n'a pas connu l'amour dans le contexte conjugal. Après, il y a l'amour de ses enfants, quand même. Elle ne vit pas seule, puisqu'il y a les deux plus petits. Et c'est vrai que moi, je m'intéresse beaucoup à l'humain et aux personnes, en fait. Et je communique très facilement. Donc, on me raconte aussi beaucoup de choses. Mais j'aime ça.
En fait, ses raisons d'exister sont ses enfants.
Oui.
Essentiellement.
Plus qu'elle. Plus qu'elle, parce qu'elle, elle est consciente que sa vie, finalement, elle a du sens, mais en même temps, il y a beaucoup de choses. Et elle se reconstruit par ses enfants. Et elle essaie de donner à ses enfants ce qu'elle n'a pas eu, elle.
En même temps, c'est quelqu'un qui a, j'allais dire, une perception de ce qu'elle aurait pu avoir. Elle sait ni lire, presque pas lire et ni écrire. Et elle essaie quand même, elle se rend compte des portes que pourrait lui ouvrir la lecture en particulier.
C'est vrai. Mais justement, dans ces femmes que j'ai rencontrées, je pense qu'il y en avait qui étaient très intelligentes et qui, si elles étaient nées dans un autre milieu, auraient pu faire des études. D'ailleurs, moi, j'ai travaillé à Béziers, j'ai enseigné pendant 4 ans à l'université de Béziers. Et justement, on avait quelques jeunes filles maghrébines qui étaient très attachantes. Qui venaient là. Alors, elles étaient surveillées par les frères. Ils s'inscrivaient à la fac et pour voir si les sœurs se comportaient bien. J'en avais même une qui était voilée, qui s'appelait Saïda. Alors le voile, au départ, j'avais un peu de mal quand même. Et c'était une fille qui avait une fantaisie et une imagination extraordinaire, parce qu'on faisait du scénario. J'avais un cours de scénario avec elle. Et elles étaient toutes vraiment très agréables, très attachantes. Elles avaient envie de s'en sortir et en même temps très anxieuses. Je sais qu'il y en avait une qui prenait des antidépresseurs tellement elle avait peur. Une amie aussi française m'avait raconté qu'elle avait connu à l'époque une jeune fille marocaine qui s'était suicidée parce qu'elle avait raté son bac. Et le bac, c'était la porte de sortie. C'était la voie de l'émancipation.
Mais on a, enfin, tout le livre est porté par ça, par le fait que l'éducation, les études, au fond, c'est par ça qu'elles peuvent s'émanciper.
Oui, bon, c'est vrai que c'est peut-être mon côté enseignante, mais je crois que pour les femmes, de toute façon, c'est la voie. Mmh. À partir du moment où une femme sait lire et écrire, c'est d'ailleurs le propos de Balzac, la petite tailleuse chinoise que j'ai beaucoup aimée, et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand la femme sait lire, écrire, a fait des études, elle peut, pas forcément se passer de l'homme, mais elle peut faire ses choix. Elle peut être indépendante financièrement, et à ce moment-là, elle décide qui elle va épouser. Elle décide de ce qu'elle va faire. Bon, c'est pas toujours idyllique, mais c'est quand même un moyen.
D'ailleurs, il y a un personnage qui incarne un petit peu cette mutation. C'est le cousin, Saïd, qui la soutient dans sa solitude et qui donc l'a défendue lorsqu'on a voulu la marier de force et qui, lui, s'est marié avec une Européenne.
Voilà, avec une Française. Et en fait, c'est aussi parce que je ne voulais pas faire quelque chose de manichéen. Et je pense que chez les hommes, il y en a aussi qui sont conscients justement de ce qu'est la condition des femmes et qui essaient de les aider. Moi, j'ai connu, par exemple, des Tunisiens dont les filles faisaient du football ou avaient une éducation tout à fait comme les garçons. Donc, ce n'est pas schématique. Même s'il y a un portrait d'homme et même des portraits d'hommes extrêmement cruels, je pense qu'il faut nuancer les choses.
Et alors, ce personnage, Yasmina, donc, qui est centrale et qui est cette personne à laquelle on s'attache, elle dit à un moment donné, j'étais une victime, en parlant à sa fille, toi, tu es libre de décider de la vie, alors au moins, fais les bons choix.
Oui,
mais c'est toute la problématique du livre, ça.
Oui, exactement. C'est vraiment, finalement, le désespoir que la fille fasse le mauvais choix et qu'elle fasse un choix de radicalité qui va la rendre encore plus dépendante des hommes, encore plus, finalement, elle peut être esclave sexuelle, elle est là pour faire des enfants ou pour se sacrifier. Donc, c'est tout ce que ne désirait pas la mère, puisqu'elle, elle l'a vécu, elle sait trop ce que c'est.
Alors, en même temps, le départ de cette fille lui permet de s'ouvrir au monde, à cette mère, parce que tout à coup, elle se met à regarder, elle découvre un peu Internet, elle va regarder des documents où on voit ce qui se passe en Syrie, et elle se dit, mon Dieu, mais si elle avait regardé ça, si elle avait vu ça, elle ne serait pas partie.
Bien sûr, mais elle a déjà une ouverture quand même un petit peu avant, puisqu'elle est dans une association. Il y a beaucoup d'associations qui aident les femmes. Moi, j'en ai connu qui font un travail remarquable. Et c'est cette association qui lui permet aussi d'être alphabétisée et qui lui permet de mesurer le fait qu'elle a été victime et que ce n'est pas normal. Parce qu'elle le ressentait, mais elle ne l'exprimait pas. Et là, elle peut mettre des mots sur les choses. Mais évidemment, ce départ de la fille l'ouvre à autre chose, c'est-à-dire qu'elle ne s'intéressait peut-être pas au djihad, à l'actualité. Bon, parce qu'elle a aussi son univers domestique qui est un petit peu réduit. Et là, tout à coup, elle découvre ce qui se passe réellement et le danger, finalement, qu'elle n'avait pas imaginé pour ses enfants. Même si elle savait quand même des choses, parce qu'elle lui dit, bon, si c'était si bien, les gens ne partiraient pas de chez eux, ça se saurait. Il ne ferait pas la queue pour quitter la Syrie. Donc, elle est consciente de certaines choses. Elle voit un petit peu la télévision. Mais bien sûr, elle n'a pas l'analyse, elle n'a pas les outils pour cela. Et d'ailleurs, j'ai écrit le livre. Il est assez différent des autres, où j'ai un univers culturel beaucoup plus fort, où j'ai des références, j'ai beaucoup de vocabulaire. Là, j'ai essayé de reproduire le style d'une femme simple. Bon, c'est faussé, bien sûr. Parce que les femmes qui m'ont parlé, elles avaient un français très approximatif. Par exemple, il y en avait une qui me disait « je ne veux pas faire le voile ». « Je ne veux pas porter le voile ». Donc ça, c'était impossible de l'écrire, ça aurait été illisible. Mais j'ai essayé de retranscrire de la manière la plus simple possible pour que ce soit vraiment... je voulais porter la voix de ces femmes aussi, qui vivent des choses. Bon, je ne dis pas que je suis privilégiée, mais quand même un peu plus du fait que j'ai eu une éducation, que je suis... Bon, j'avais un père enseignant, une mère assistante sociale, j'ai fait des études. C'était quand même beaucoup plus facile.
Bien sûr.
Même si on a tous notre vécu, mais à ce niveau-là, les choses m'étaient ouvertes.
C'est une sorte de condensé de femme dans cette situation. Qui est, donc, elle est, on l'a dit, je crois, au début, elle est marocaine, elle est venue en... Elle dit d'ailleurs que la France est une sorte de miroir aux alouettes pour les Marocains.
Alors, oui et non, parce que... Beaucoup s'imaginent que tout va être beau, extraordinaire. Ce n'est pas la réalité. Mais à côté de ça, moi, j'ai eu différents sons de cloche. Donc, je me souviens d'un petit Marocain que j'avais. Alors, il ne parlait pas français au départ. C'est toute la classe. C'était quand j'étais encore dans le secondaire. Il avait pris sous son aile et qui lui avait appris le français. Et il était ravi d'être là. Mais il y en a aussi qui déchantent parce que ce n'est pas... Le rêve, il y a une espèce de rêve européen et la réalité. D'ailleurs, c'est aussi, je l'avais lu, ça m'avait beaucoup amusé dans Aya de Yopougon, où il y a un Africain qui part à Paris et qui s'aperçoit qu'il y a des gens qui dorment dans la rue, et qui ne comprend pas. Parce que pour lui, Paris, tout le monde est riche, tout le monde est beau, bien habillé.
Et oui, d'ailleurs, vous racontez qu'une cousine qui vivait en France revenait et racontait des choses. D'ailleurs, votre livre est traversé aussi par la question des réfugiés. Des gens qui partent et puis qui, bon, déchantent une fois sur place.
Oui, des réfugiés ou des immigrés. Mais en même temps, c'est vrai que quand on revient au pays, et ce n'est pas seulement dans les pays du Maghreb, je vois les Portugais, par exemple, font pareil. On revient avec la belle voiture, avec les beaux vêtements, on apporte des cadeaux pour montrer qu'on a réussi. Et l'inverse, par exemple, c'était le rêve américain. Dans les années 50, ma mère m'avait raconté qu'il y avait des Français qui n'avaient pas réussi, mais qui ne pouvaient pas revenir en France parce que c'était perdre la face. Et je pense qu'il y a cette idée de rêve qu'on veut prolonger, qu'on veut perpétuer pour tout immigré, quel qu'il soit, quelle que soit son origine et quel que soit le pays d'accueil. Parce que si on n'a pas réussi, d'abord, on déçoit les attentes et puis souvent, la famille s'est cotisée.
Donc, oui, pour aider au départ.
Donc, c'est un échec.
Ouais, ouais, ouais.
C'est un échec et on ne redonne pas ce qui a été donné alors que tout le monde l'attend, ce retour sur investissement.
Et puis, c'est perdre la face.
Voilà.
De dire...
Il faut que ce soit merveilleux.
Il faut que ce soit mieux, en tout cas.
Voilà, même si c'est faux, parce que la réalité, c'est la réalité.
Et donc, au fond, ce qui les guide, c'est un rêve, mais une sorte de fantasme, en réalité.
C'est un rêve, je pense, qui a été fabriqué aussi par les images que nous pouvons avoir, par les médias, par la publicité, par le cinéma, parce que les films qu'on voit, c'est peut-être pas les films les plus réalistes, les plus ou ceux qui montrent la réalité la plus sordide. Ce sont, d'ailleurs, je vois, par exemple, les jeunes filles que je connaissais, et c'était le cas aussi de femmes turques dans des quartiers quand j'étais dans les Landes, elles regardent beaucoup de vidéos et de vidéos de Bollywood. Et ces vidéos, c'est un univers de rêve très kitsch. Mais avec des belles couleurs, avec des intérieurs luxueux, ça ne ressemble en rien à ce qu'on peut vivre quand on arrive dans un pays étranger.
Alors, il y a aussi quelques éléments sur la religion. Et dans le jugement de votre personnage, et elle est extrêmement dure avec certaines... une certaine façon d'aborder la religion, justement.
Oui, parce que beaucoup de ces femmes, et c'est aussi mon opinion, ont été confrontées à des formes radicales de religion, qu'elles n'acceptent pas. Parce qu'il y a eu aussi une évolution à ce niveau. Et des femmes qui n'étaient pas forcément religieuses, qui étaient musulmanes, mais plus par habitude que par conviction profonde.
Par culture,
par culture, plus que par recherche spirituelle, comme les gens sont catholiques, vont à la messe, mais bon... sans que forcément il y ait quelque chose de très profond dessous, et qui tout à coup se sont trouvés confrontés à l'obligation de porter le voile, ce qui n'était pas dans leur tradition non plus forcément. Et pour elles, c'est un choc. Alors que les jeunes filles, certaines jeunes filles justement, y compris des jeunes filles d'origine française, catholique, etc., vont faire ce choix par quête spirituelle sans comprendre tout ce qu'il y a dessous et tout ce qui peut les enfermer. Ou elles ne veulent pas le voir. Peut-être qu'elles comprennent, mais que... Enfin, moi, ça m'est très difficile parce que je n'arrive pas à admettre les formes extrémistes ou radicales. Moi, je travaille sur l'iconoclasme. Déjà, je ne comprends pas pourquoi on détruit des images. D'où mon choix d'avoir travaillé là-dessus. Mais je ne comprends pas qu'on puisse être extrémiste. Et j'ai même l'impression que ça va à l'encontre du religieux, qui devrait relier les gens. Hein. Religion, ça veut dire lien. Et au contraire, ça crée la séparation, ça crée la différence, ça crée la haine. Donc, c'est des choses que j'ai du mal à admettre.
Alors, il y a une petite référence à la réalité. Elle parle d'un imam qui a escroqué les allocations familiales. Elle dit... Et dis donc, et vis-à-vis de cet individu, tu as encore quelque chose à en attendre. C'est incroyable.
Oui, parce que Tartuffe, je pense que Molière avait du génie, mais il est partout, en fait. C'est vrai que ça correspond à une époque et à la religion catholique, mais on peut très bien retrouver Tartuffe, je pense, à tous les niveaux et dans tous les pays.
Voilà, eh bien, écoutez, merci Marion Poisson-d'Auchonne. « Ma fille ne t'en va pas », c'est le titre de ce très beau livre qui est publié aux éditions du Chèvrefeuille étoilé. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Gulliver. Rendez-vous évidemment la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.